Radio Prague, les informations.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Prague pour ce bulletin d'information. En titre aujourd'hui, corruption, l'opposition parlementaire dénonce une police partisane. Le président Klaus soutient son ancien rival Miloš Zeman à la présidentielle de 2013. Et enfin, affaire de Břeclav, la communauté rome ne portera pas plainte. Selon le parti ČSSD, le parti social-démocrate, la police tchèque n'enquêterait que sur des cas de corruption mettant en cause des membres de l'opposition. Les sociaux-démocrates ont ainsi signalé que la police ne visait pas de la même manière les membres de la coalition gouvernementale et l'opposition. Selon le vice-président du ČSSD, Jeroným Tejc, la police aurait envoyé un signal clair aux membres de l'opposition en enfermant les responsables soupçonnés de fraude ou de corruption. Selon lui, l'affaire Rat est le symbole de l'existence en République tchèque de deux polices différentes, je cite, celle qui traite la corruption de l'opposition et celle qui est incapable de poursuivre les membres du gouvernement. Fin de citation. À la suite de l'affaire Rat, l'ancien gouverneur de la région de Bohême-Centre, mis en examen provisoirement il y a 2 semaines pour détournement de fonds publics et corruption, la social-démocratie perd un peu de son avance dans les intentions de vote aux élections régionales et sénatoriales qui auront lieu cet automne. Le parti social-démocrate ne recueillerait que 23,3% des intentions de vote contre 26,6% au mois d'avril. Ces chiffres ont été rendus publics ce lundi par l'agence de sondage STEM. Ces résultats sont les plus mauvais de toute l'année. A l'inverse, les partis situés à droite de l'échiquier politique progressent. L'ODS gagne ainsi 2,2 points et rassemble 14,4% des intentions de vote. Affaire de Břeclav, les Roms de la ville de Břeclav en Moravie ne déposeront pas plainte contre le jeune garçon de 15 ans qui avait inventé une attaque brutale prétendument perpétrée par 3 membres de la communauté rome pour expliquer ses blessures. La fausse déclaration du garçon avait généré une importante vague de protestations racistes anti-roms dans la ville durant plusieurs jours. La décision des associations représentant la communauté rome de Břeclav a été rendue publique ce lundi à l'agence tchèque de presse par le représentant national des associations roms tchèques du pays, Vladimír Galbavý. Après avoir affronté âprement durant les années 1990 l'ancien premier ministre social-démocrate, le président de la République tchèque, Václav Klaus, a déclaré au quotidien Mladá Fronta Dnes qu'il soutenait la candidature de Miloš Zeman, son ancien rival à la présidence de la République. Václav Klaus a en outre déclaré que Miloš Zeman était une personnalité remarquable de la politique tchèque et en a profité pour préciser que seules les personnalités ayant réalisé une action significative pour le pays pouvaient prétendre se présenter à la première élection du président de la République au suffrage universel direct qui aura lieu en 2013. Durant 5 jours, la conférence internationale sur le vieillissement IFA réunira plus de 250 spécialistes répartis dans des dizaines de séances plénières, 50 symposiums, séminaires et groupes de travail. Durant cette conférence qui s'ouvrira à Prague ce lundi, la ministre canadienne pour les personnes âgées Alice Wong ainsi que le conseiller de l'Organisation internationale de la santé Chris Ham seront parmi les personnalités invitées à s'exprimer lors de cette conférence. L'objectif de la conférence, dans laquelle seront présents plus de 800 délégations de scientifiques et de personnalités du monde entier, est d'ouvrir un espace de réflexion internationale destiné à l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées. Météo pour finir, demain mardi le temps sera pluvieux sur la majeure partie du pays et des pluies sont attendues dès le lever du soleil. Les températures en hausse seront comprises entre 22 et 25 degrés. Nous fêterons demain les maximes.
Faits et événements en République tchèque.
Bienvenue à toutes et à tous à l'écoute de Radio Prague et merci à Paul Bauer pour son bulletin d'information. Ce dimanche, 70 ans se sont écoulés depuis l'attentat contre le protecteur de Bohême-Moravie, Reinhard Heydrich. Plusieurs commémorations, manifestations culturelles et d'autres événements se sont déroulés à cette occasion un peu partout en République tchèque. Nous vous proposerons de visiter dans cette émission une exposition pragoise, pas comme les autres, installée dans les décors d'un camp de concentration. Ensuite, il sera question sur Radio Prague d'une autre exposition de dessins cette fois-ci. Elle présente des œuvres du célèbre plasticien britannique Francis Bacon et elle a suscité une polémique dans le monde de l'art tchèque. La seconde partie de notre programme sera consacrée comme chaque lundi au sport. Pour Pour beaucoup, il s'agit du plus grand acte de résistance de la Seconde Guerre mondiale. Il s'est déroulé il y a tout juste 70 ans à Prague. Le 27 mai 1942, deux résistants tchécoslovaques ont perpétré un attentat contre le chef du protectorat de Bohême-Moravie et troisième homme le plus puissant de la SS, Reinhard Heydrich, qui succomba à ses blessures une semaine plus tard. À cette occasion, l'ONG Postbellum a installé dans le parc de la place Charles, en plein centre de Prague, une réplique du camp de concentration de Mauthausen. Elle abrite une exposition consacrée à sept parachutistes organisateurs de l'attentat, ainsi qu'à leurs collaborateurs et familles exécutées dans ce camp en octobre 1942. Dans la matinée du 27 mai 1942, Reinhard Heydrich quitte à bord de sa Mercedes décapotée le château de Panenské Břežany, situé à une vingtaine de kilomètres de Prague, où il réside avec sa famille, pour se rendre dans son bureau. Vers 10h30, lorsque la voiture traverse la banlieue pragoise et ralentit dans un virage, deux jeunes membres de la résistance, Josef Gabčík et Jan Kubiš, essayent d'abord de tirer sur Heydrich, puis jettent une bombe sur son cabriolet. Jaroslav Pišov est probablement le dernier témoin de l'attentat. À l'époque, il avait 5 ans et allait faire les courses avec sa mère. 70 ans après, il a assisté à la reconstitution historique de l'attentat.
Je me souviens que soudainement, nous avons entendu une énorme explosion. C'était la grenade. Ensuite, un coup de fusil. Nous nous sommes approchés et nous avons vu Heydrich sortir de la voiture debout.
Parachutés quelques mois avant l'attentat près de Prague, Josef Gabčík et Jan Kubiš ont été désignés par la résistance tchécoslovaque en Grande-Bretagne pour cette opération baptisée Anthropoïde. Une mission accomplie car le numéro 3 de la SS, un des artisans de la solution finale à la question juive, est décédé à l'hôpital une semaine après l'attentat le 4 juin 1942, même si la cause immédiate est aujourd'hui encore entourée de mystères. Les nazis lancent alors des représailles sanglantes qui coûtent la vie à environ 5000 personnes, dont les habitants de deux villages rasés. Dans un parc au centre de Prague, une exposition multimédia est installée dans la reconstitution d'un camp de concentration. Elle a été mise en place par l'ONG Postbellum. Mikuláš Kroupa est son directeur.
Le visiteur entre par une porte surplombée par un aigle nazi et l'inscription « Arbeit macht frei ». À l'intérieur se trouvent trois baraques en bois entourées de barbelés. Dans ces constructions, nous présentons sous forme de photos, de textes, de bandes sonores et de films les destins de 70 personnes liées à l'attentat, dont ceux de trois hommes dont les témoignages ont permis à la Gestapo de retrouver les auteurs de l'attentat. Mais nous ne voulons pas les juger. C'était des patriotes qui se sont retrouvés dans une situation extrêmement difficile.
L'exposition rend hommage aux victimes des répressions nazies, notamment aux 261 Tchèques exécutés un jour d'octobre 1942 dans le camp de concentration de Mauthausen. Mikuláš Kroupa.
Il y avait parmi eux des résistants et leurs familles entières, des gens qui aidaient les parachutistes. Ils leur apportaient de la nourriture, ils les cachaient chez eux, ils cachaient leurs armes et les mettaient en contact avec la résistance locale tchèque. Ces gens-là, des femmes en premier, ont été placés contre le mur et un curseur a été placé sur leur tête comme pour mesurer leur taille. C'est ainsi que les 261 personnes ont été fusillées en l'espace de 9 heures. Tak to bylo během 9 hodin popraveno
261 lidí celé rodiny. Un maître muni d'un curseur est d'ailleurs placé à la sortie de ce camp imaginaire en face d'un lieu de piété où les visiteurs allument des bougies. Parmi eux, Josef, un jeune pragois.
Takový autentický, jak to bylo v takovém tom prostředí toho koncentráku.
Le fait que l'exposition soit installée dans un camp de concentration est, je pense, assez authentique, réaliste. Il y a beaucoup de textes et une foule de gens à l'intérieur, mais j'ai malgré tout réussi à lire tout ce qui m'intéressait. Au lycée, même si nous parlons de la Deuxième Guerre mondiale, nous n'avons presque rien appris sur l'attentat contre Heydrich et encore moins sur les gens persécutés. Les profs n'entrent pas dans les détails.
Heydricha. L'exposition s'achèvera symboliquement le 18 juin prochain. Ce jour-là, il y a 70 ans, les auteurs de l'attentat ainsi que 5 autres parachutistes ont péri dans leur ultime combat contre les nazis dans une église située rue Reslova à quelques pas de l'exposition. La galerie Gate à Prague propose en collaboration avec la galerie Vernon une exposition intitulée Francis Bacon, Bohemel Hrabal, de génie. L'idée de mettre en parallèle l'un des plus grands peintres du XXe siècle et l'un des plus grands écrivains tchèques peut paraître incongrue. L'exposition elle-même a d'ailleurs suscité une polémique dans le monde de l'art tchèque. Monika Burian, commissaire de l'exposition, revient au micro d'Anna Kubishta sur la genèse du projet.
L'expo du Francis Bacon est née, ça fait à peu près 3 ans. Et notre amie, chère amie Maria Gloria Grifoni, qui elle est une écrivaine, poète très connue, qui a eu une prime pour Hrabal, elle a dit, écoute, les deux vies du Francis Bacon et Bohemel Hrabal ont été très similaires. De là, on a commencé d'élaborer les parallèles. Tous les deux, ils ont été très, très seuls. Ils ont, leur vie est finie dans la solitude. Tous les deux, ils ont utilisé l'art ou l'écrire pour exprimer leur solitude et leurs problèmes. J'ai dit qu'ils ont été dans deux cages. Bohemel Hrabal était dans une cage du système du communisme. Francis Bacon était dans cette cage de sa orientation sexuelle qui, à l'époque, s'était persécutée par la justice s'il lui s'est déclaré homosexuel.
Alors justement, comment est-ce que vous articulez le dialogue Bacon-Hrabal? Je crois savoir qu'il va y avoir notamment une sorte d'improvisation théâtrale. Oui.
Alors Maria Gloria avait écrit ce dialogue imaginaire entre les deux. Et là, tous les deux parlent entre eux de la création, de la solitude, de l'art. Et ça va être, on dit, plutôt une performance artistique dans l'expo le 20-21 du juin avec des jeunes acteurs tchèques. Mais quand même, dans l'expo, on a trouvé par l'expert du Bohemel Hrabal les citations du Hrabal sur l'art et on a mis dans l'exposition à côté de dessins et tableaux du Bacon.
Alors justement, ces dessins de Francis Bacon sont sur le thème d'un pape. Est-ce que vous pourriez un petit peu préciser d'où viennent ces dessins exactement?
Alors il y a 3 thèmes, il faut préciser. Il y a le thème du pape, il y a le thème du portrait, il y a le thème du crucifixion. Ces dessins ont été créés entre 1977 et jusqu'à la mort du Bacon, quand lui a voyagé beaucoup en Italie et en Espagne. Lui s'est inspiré par exemple par Guercino, d'autres artistes italiens, l'art italien. Et la première exposition de ce dessin, il a eu lieu à Bologne en 1988.
Alors il y a eu une petite polémique dans le monde de l'art à Prague sur l'authenticité de ces dessins. Sont-ils authentiques, pas authentiques? Comment est-ce qu'on peut en fait finalement en être certain?
Alors je voudrais dire, Prague est toujours derrière le monde. La polémique qui était née ici était sous les arguments qui sont très très vieux. Dans 1994 jusqu'à 2004, il y a eu un procès où à la fin le tribunal en Italie a établi que ces dessins ils sont vrais. Et après, il y a commencé la communication, comment intégrer cette portfolio du dessin dans les autres œuvres. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un catalogue raisonné. Parce qu'on discute si ces dessins allons intégrer dans la collection complète ou si on va les laisser comme la collection du Francis Bacon, du dessin italien.
Oui, parce que la majorité quand même de ce qui est exposé en général de Francis Bacon sont des peintures et non pas des dessins.
Il faut dire que Francis Bacon, il avait signé un contrat avec la galerie Marlborough très très jeune. Que la galerie a pratiquement contrôlé toute sa production. Bacon a détruit à peu près la moitié de ses œuvres. Marlborough a essayé de créer de lui cet génie qui n'a pas besoin de faire les dessins. Mais en fait, qu'est-ce qu'on voit ici, ça ne sont pas les dessins. Quand Bacon parle, je ne sais pas dessiner, lui parle des dessins en détail. Qu'est-ce qu'on voit ici sont les vraies œuvres. Comme avait dit M. Sgarbi pendant l'ouverture de l'expo, un tableau a besoin, le studio a besoin du temps. Et Francis Bacon n'a pas eu le studio en Italie, mais lui a eu cette nécessité d'y créer. Alors pour ça, pendant 2-3 heures, lui arrive à faire le dessin avec plus de concentration, les collages. Et les collages ne sont pas les vrais dessins, c'est une œuvre finie.
C'était Monica Burian au micro d'Anna Kubishta. Comme chaque lundi, place maintenant à l'actualité sportive sur Radio Prague. Au sommaire du football, tout d'abord, à désormais 11 jours de son premier match de groupe contre la Russie, la République tchèque poursuit sa préparation en vue de l'Euro 2012. Samedi, pour leur premier match de préparation, les Tchèques ont battu Israël 2-1. Un match qui concluait une semaine de stage en Autriche, comme nous l'expliquera Guillaume Narguet. Mais le cyclisme, avec la fin du Tour d'Italie et les performances de Roman Kreuziger sur ce Giro, ainsi que l'athlétisme avec le meeting d'Ostrava, marqué comme chaque année par la présence de la superstar jamaïcaine Usain Bolt, et d'autres étoiles mondiales de la piste ont également constitué quelques-uns des temps forts de l'actualité tchèque de ces derniers jours. Passage en revue de celle-ci, tout de suite donc avec Guillaume Narguet.
Sport en République tchèque.
On commence cette rubrique avec du football. L'équipe de République tchèque a achevé la première phase de sa préparation à la phase finale du championnat d'Europe. Samedi, après une semaine de stage à Bad Waldersdorf en Autriche, la Repräsentanz a disputé contre Israël le premier de ces deux matchs de préparation. Un match conclu sur une victoire 2-1 grâce à deux buts inscrits d'abord par Milan Baroš sur penalty en première période, puis par un autre attaquant, David Lafata, dans le temps additionnel, faisant ainsi presque oublier l'égalisation israélienne juste avant la mi-temps. Malgré les absences de Petr Cech, Tomáš Rosický, Jaroslav Plašil ou encore du défenseur Michal Kadlec, quatre titulaires à part entière laissés au repos, les Tchèques, sans être brillants, ont livré une prestation suffisamment bonne pour l'emporter et engranger de la confiance, comme s'en satisfaisait le défenseur Theodor Gebreselassie.
C'était un match difficile, nous sommes tombés sur un adversaire qui a plutôt bien joué et combiné, surtout en première mi-temps. Ensuite, nous avons su mettre plus de mouvement dans nos actions et nous avons alors pris le dessus. C'est bien d'avoir gagné. On ne voulait pas nous entendre dire que nous avions perdu contre Israël, une équipe qui n'est pas qualifiée pour l'Euro. On est donc satisfait.
Quelques jours plus tôt, la République tchèque avait également battu 7-1 une sélection de la région de la Styrie, un match d'entraînement qui servait à pimenter un stage en Autriche qui, à en croire le sélectionneur Michal Bilek, a rempli tous ses objectifs.
Nous voulions tester l'état de forme des joueurs et tous les tests que nous avons effectués ont eu des résultats positifs. Mais toute la semaine s'est bien passée. Nous avons trouvé ici en Autriche tout ce que nous étions venus y chercher. Nous avons pu nous entraîner et récupérer dans d'excellentes conditions, même si certains joueurs sont un peu fatigués. Mais il nous reste encore suffisamment de temps pour qu'ils soient tous prêts le jour J.
Le jour J, ce sera le vendredi 8 juin et le premier match de groupe de la République tchèque contre la Russie à Wrocław. Pour cette entrée en matière, les Tchèques devraient pouvoir compter sur leur meneur de jeu, Tomáš Rosický. Victime d'un problème à un mollet, le milieu d'Arsenal s'est entraîné individuellement en fin de semaine dernière. Un programme à base de course et une remise en forme qui se passe bien selon le médecin de l'équipe nationale, Petr Krejčí.
Il ne pourra pas encore jouer contre la Hongrie vendredi, mais cela ne l'empêchera pas de reprendre l'entraînement avec le groupe cette semaine et d'augmenter progressivement les charges de travail. Ce qui gêne le plus Tomáš aujourd'hui, ce n'est pas tellement son mollet, c'est plus le fait de ne pas s'entraîner normalement. Il n'a pas mal quand il court, il va donc pouvoir reprendre avec le ballon. Il ne lui reste plus beaucoup de temps avant le début de l'Euro. Il faut donc qu'il s'entraîne normalement cette semaine pour être en forme pour le premier match. Mais tout se passe bien pour l'instant et ce qu'il fait, il le fait sans problème.
Avant le match contre Israël, Tomáš Rosický lui-même, dont la présence dans l'entre-deux tchèques est devenue pratiquement indispensable ces dernières années, a été tout aussi rassurant.
Ça a l'air de bien se passer, mon état s'améliore, je peux courir et j'entends bien reprendre progressivement l'entraînement collectif. Nous ne nous sommes pas fixés de date, il n'y a pas d'urgence et il serait inutile de prendre des risques. Je verrai selon mes sensations, mais je ne doute pas que je serai prêt à 100% pour le début de l'Euro.
Avant cela, les Tchèques disputeront donc un dernier match de préparation contre la Hongrie vendredi à Prague. Une répétition générale avant de prendre la direction de Wrocław, distante de seulement quelques heures de voiture et où la République tchèque disputera ses trois matchs de groupe. Tout récent vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea, Petr Cech, qui a rejoint la sélection en milieu de semaine dernière, ne prend pas ce match contre la Hongrie et les derniers jours de stage à Prague par-dessus la jambe.
C'est une préparation pour l'Euro, et l'Euro est un grand tournoi.
C'est la préparation pour le championnat d'Europe. L'Euro est un grand tournoi que je n'ai jamais gagné. Il y a 6 ans de cela, au Portugal, nous sommes parvenus jusqu'en demi-finale, mais nous n'avions pas eu de réussite et avions perdu contre la Grèce. La motivation est donc intacte aujourd'hui et notre ambition doit être la même, faire le maximum pour essayer d'aller au moins aussi loin qu'à l'Euro 2006. C'est pourquoi la préparation et les matchs avant l'Euro sont très importants. Personnellement, je sais que si je veux être au meilleur de ma forme à l'Euro, j'ai besoin de faire de bons matchs de préparation.
Ce mardi, le sélectionneur Michal Bilek, dont le contrat a été prolongé de 2 ans avant même le début de l'Euro, annoncera la liste définitive des 23 joueurs pour le championnat d'Europe, une liste tchèque dans laquelle ne manquera donc aucun des joueurs cadres. On passe au cyclisme. Le Tour d'Italie s'est achevé dimanche sur la victoire historique de Ryder Heisedal, premier Canadien vainqueur d'un grand tour. Le coureur de l'équipe Garmin a profité du contre-la-montre de la dernière étape disputée dans les rues de Milan pour endosser le maillot rose et souffler la victoire finale pour 16 petites secondes à l'Espagnol Joaquim Rodriguez, leader les 10 jours précédents. Une lutte pour les premières places dont est resté très éloigné Roman Kreuziger, lâché mercredi dernier dans la 17e étape, au programme de laquelle figuraient 4 cols de première et deuxième catégorie, alors qu'il était encore 5e au classement général. Le coureur tchèque a finalement terminé 15e avec près de 20 minutes de retard sur Ryder Heisedal. Un classement et une prestation d'ensemble qui lui ont valu les critiques des responsables de son équipe, Kazakh Astana, mais dont Roman Kreuziger, qui avait fait du Giro le premier objectif de sa saison, était lui aussi très déçu.
Bien sûr, ma victoire d'étape me met un peu de baume au cœur, mais elle ne change pas grand-chose à ma déception d'ensemble. Elle ne me comble pas, ça reste un résultat insuffisant pour m'en satisfaire. Je n'étais pas venu ici pour ça. Mon ambition avant le départ, il y a 3 semaines, était de lutter pour une place sur le podium. Le fait de ne pas figurer aux premières places me déçoit donc énormément.
Victime de crampes dans la 17e étape qui lui a été fatale et qui l'a achevé épuisé, Roman Kreuziger est néanmoins parvenu à retrouver suffisamment de force, tant physique qu'au moral, 2 jours plus tard, pour faire partiellement oublier sa journée noire de mercredi et ainsi signer la première victoire de sa carrière dans un grand tour. Auteur d'une belle chevauchée, Kreuziger a gagné en solitaire la 19e étape de haute montagne, dont l'arrivée était jugée à l'Alpe di Pampeago. Cela faisait 11 ans qu'un coureur tchèque n'avait plus remporté une étape d'un des 3 grands tours. C'est donc chose faite, même si cela ne fait effectivement pas oublier que jamais encore un coureur tchèque, pas même donc Roman Kreuziger en Italie, n'a terminé sur le podium d'un de ses grands tours. Et puis on termine avec un mot d'athlétisme. Pour la 5e année consécutive, Usain Bolt était la grande vedette du meeting d'Ostrava qui s'est tenu vendredi soir dernier. Mais si le sprinteur jamaïcain a comme toujours assuré le spectacle lors des quelques jours passés en Moravie du Nord, cela a été plus ordinaire sur la piste, vainqueur du 100 mètres en 10 secondes 4 pour sa première course en Europe de la saison. Usain Bolt, auteur d'un départ très moyen, est resté loin non seulement de son record du monde de 9 secondes 58, 28 et de sa meilleure performance de l'année, 9 secondes 82, mais aussi du chrono de 9 secondes 70 dont il avait annoncé vouloir s'approcher à Ostrava. À l'arrivée, Usain Bolt ne cachait pas sa relative déception.
C'était un mauvais jour, tout simplement. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. À l'échauffement, j'ai effectué plusieurs départs qui étaient plutôt bons. J'avais de bonnes sensations et les conditions de course étaient bonnes. Mais pendant la course, ça s'est passé différemment. Mon départ n'a pas été bon et ensuite je n'ai pas ressenti la même explosivité que d'habitude. Je n'ai pas su accélérer vers la mi-course. Je suis tout aussi surpris que vous de ma performance. Et il m'a fallu m'employer pour gagner. C'était le minimum. Il va falloir que j'en discute avec mon entraîneur pour améliorer tout cela.
Usain Bolt peu convaincant, ce sont donc les lanceurs de javelot tchèques qui ont signé quelques-unes des plus belles performances de la soirée à Ostrava. Vítězslav Veselý chez les hommes avec un lancer à 85,67 m et Barbora Špotáková chez les femmes ont en effet remporté leurs concours respectifs et ce, en présence de ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle au niveau mondial. Les deux protégés du légendaire Jan Železný, leur entraîneur, ont ainsi confirmé qu'il faudrait compter sur eux en cette année olympique. À un peu plus de deux mois des de Londres, la championne olympique en titre et record woman du monde, Barbora Špotáková, a même signé la meilleure performance de l'année avec un jet à 67,78 m, dominant ainsi nettement sa grande rivale et championne du monde en titre, la russe Maria Abakumova. A noter toujours à Ostrava une autre meilleure performance mondiale de l'année, cette fois au saut à la perche avec le français Renaud Lavillenie qui a franchi une barre à 5,90 m avant d'échouer trois fois à 6 m. Et puis un des autres grands moments de la soirée, le 800 mètres féminin a tourné à l'avantage de Pamela Yelimo. La Kenyane a survolé la course en 1 minute 58 secondes et 49 centièmes, loin devant la Sud-Africaine Caster Semenya, rendue célèbre entre autres par la polémique sur son genre. Même sans un Usain Bolt au sommet de sa forme, Ostrava a donc une nouvelle fois confirmé que, hors Ligue des Diamants, il était bien un des meetings réunissant un des plus beaux plateaux d'athlètes de l'élite mondiale.
C'est la fin, chers amis, du programme de Radio Prague en langue française. Magdalena Hrozinková au micro vous remercie de l'avoir suivi. À très bientôt sur Radio Prague.